EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Très heureuse de vous retrouver et je vous garantis, nous allons avoir une belle semaine ensemble. Oui, je le dis toutes les semaines, mais c'est la vérité. Vous ai-je déjà menti? Non. Nous allons avoir une belle semaine. Et comme tous les lundis, eh bien, je veux remercier toute la famille des partenaires. Un grand merci à vous tous parce que je vous le rappelle, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, actuellement, à EMCI, que ce soit les émissions, que ce soit aussi le projet Ma Bible, que ce soit les conférences et pour tous les témoignages aussi qu'on reçoit, eh bien ce sont vos témoignages, mais c'est le vendredi que je partage un témoignage, donc je vous en partagerai un ce vendredi, mais un grand merci à vous tous pour votre fidélité, pour votre soutien de mois en mois, un soutien mensuel, ça demande beaucoup d'engagement et vous êtes nombreux à garder ce soutien mensuel et j'imagine que c'est pas forcément tous les jours facile en plus et que pour certains mois, c'est une décision à reprendre, une décision de foi. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Alors, un grand merci alors que vous avez continué parce que vous vous êtes dit non, c'est important pour nous. On croit dans cette œuvre, on croit dans cette vision, puis on croit surtout que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors, on veut, au nom de toute l'équipe, eh bien, je vous dis un grand merci encore une fois d'être partenaire avec nous dans cette vision. Et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Sandra et je vais présenter l'invité même avant. Je suis avec Rachel. Rachel, consultante en communication organisationnelle.
T'as vu? À chaque fois, tu vas le dire comme ça.
Oui, je le redirai pas, en fait. C'est le genre de mot, tu dis une fois, c'est bon. Et nous avons Stéphanie qui est de retour. Stéphanie, tu es de retour.
Je suis de retour de la France, de la Belgique. Mais je suis très. Ça s'est super bien passé. Vraiment, Dieu a fait de belles choses, de beaux témoignages. Amen. Mais je suis heureuse de vous retrouver.
Ah, nous
je
aussi.
Me suis ennuyée. Partie de...
T'as manqué même l'arrivée de Nadège.
Bah oui, j'ai tout raté.
Mais bon, elle était au courant, vous inquiétez pas. Quand même. Mais on a une bonne communication organisationnelle.
C'est vraiment un pur bonheur d'être avec vous, vraiment.
Ah bah, nous aussi, on est contente de te retrouver. Donc avec, du coup, on pourra jamais être toutes ensemble. Ah ouais, ok. Bon, bah c'est pas grave. Sauf si on se sert un petit peu une fois à table. Il faudra que ça fasse un petit spécial quand même. Mais très contente de te retrouver. Et Rachel, contente de te retrouver aussi. C'est toujours une grande joie de t'avoir avec nous à table. Des sujets tout le temps hyper passionnants. À chaque fois que l'émission se termine, c'est ce serait cool qu'on continue la conversation. Sandra a déjà lancé. Oui,
moi, j'ai déjà lancé l'invitation.
Ouais, après autour d'un café. Et aujourd'hui, eh bien on va parler du syndrome de l'imposteur. C'est quoi exactement? Et il y a quelques semaines, Sandra a lancé un petit peu la perche. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu un petit extrait pour vraiment mettre l'emphase sur tes combats, Sandra, où t'en as parlé. Et t'as été super vulnérable d'en parler. Et dans les commentaires, beaucoup de gens disent « mais c'est exactement ce que je vis, je me retrouve, etc. » Puis aussi, la surprise de voir que quelqu'un comme toi pouvait aussi le vivre. Alors, c'est un terme qu'on entend, une expression qu'on entend beaucoup dernièrement. Alors je crois que c'est important de savoir exactement ce que ça n'est pas. Puis aussi comment on fait pour s'en sortir. Sandra, tu peux t'en sortir. Donc Rachel, toi tu travailles beaucoup avec les entreprises, les organismes, les associations, bref là où il y a des gens qui travaillent ensemble finalement. Et voilà. et c'est quelque chose, est-ce que c'est un phénomène que tu rencontres régulièrement?
Alors oui, c'est un phénomène qui se voit partout. J'ai envie de dire, nul milieu n'est épargné par ce syndrome. Alors, dans mon contexte, pourquoi je l'adresse, pourquoi je le connais? Parce que ça va être une notion qu'on aborde avec des personnes qui vont être en position peut-être de leadership, avec des postes à responsabilité. Notamment, c'est toute une thématique même que nous abordons plus spécifiquement dans un programme où on accompagne des nouveaux managers, des jeunes managers. Donc, c'est-à-dire que tu passes d'un poste d'employé dans une entreprise, dans une équipe de travail. Puis là, il y a un poste qui s'ouvre pour accéder à un poste avec des responsabilités. Tu appliques, t'es tout content, on te choisit, super, on te dit pourquoi on te choisit. On a aimé votre CV, on a aimé votre présentation, votre façon d'être. Vraiment, on met beaucoup d'espoir sur vous. Vous avez le poste. Puis là, d'un coup, on est envahi d'un vent de panique. Mais suis-je à la hauteur? Non, mais attends, en fait, j'ai jamais fait le poste.
J'ai menti sur mon CV.
J'ai postulé. On a tout sur le CV, tout va bien, et pourtant on est quand même envahi de cette idée-là. Et puis finalement, on vient accompagner ces jeunes managers, ces jeunes gestionnaires dans cette prise de poste, et on ne peut pas ne pas aborder justement ce syndrome de l'imposteur, et puis travailler avec eux sur toute une séance, une grosse séance d'accompagnement d'ailleurs.
Une grosse séance d'accompagnement.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ce syndrome. Hein. Il y a des croyances, il y a des phénomènes, il y a des comportements bien ancrés malheureusement derrière, et puis il y a quelque chose qui te vole ta joie. C'est l'occasion de ta vie, c'est une opportunité de ta vie de te développer professionnellement parlant ou même ministériellement parlant. C'est un appel qui est sur toi. Je crois que l'appel, c'est pas réservé aux gens qui sont à temps plein dans le ministère, mais on est tous appelés à servir Dieu pleinement dans nos vies. Alors même là, je pense que tu peux avoir ta place et te développer professionnellement parlant, et ça vient voler une certaine joie.
Et je sais pas si je me trompe, mais le syndrome de l'imposteur, ça peut nous toucher aussi comme mère. T'sais, on parle de travail au niveau professionnel, au niveau ministériel, mais des fois aussi comme mère, des fois on a l'impression de pas être à la hauteur. Je me trompe ou pas?
Non, tu te trompes pas, en fait. Oui.
Imposteur,
malheureusement, non. Tu te trompes pas.
Et oui, mais si on peut commencer peut-être avec une définition.
Oui, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? De quoi on parle d'ailleurs? Je pense que la définition va s'afficher sur vous, sur vos écrans. Ce qu'il faut comprendre du syndrome de l'imposteur, c'est que c'est un sentiment qui est persistant. Et s'il est persistant, il se retrouve dans toutes les sphères de notre vie. Peu importe le rôle que j'occupe, en tant que jeune maman, il y en a qui vont se sentir comme le syndrome de l'imposteur, mais je suis pas à la hauteur. Est-ce que cet enfant, je vais réussir à le faire grandir, à l'éduquer, à l'élever, à lui donner un avenir, de l'espoir, qui rentre dans son appel de vie, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous envahir au moment de la naissance. C'est quelque chose qui nous frappe aussi au travail, ministériellement parlant, à tout niveau et à toute saison de notre vie. Voilà, c'est un sentiment qui est persistant. Et ça, il faut insister, c'est pas un manque de confiance, c'est un sentiment qui est persistant de ne pas être à la hauteur et qu'un jour, on va être démasqué. Démasqué comment? On n'est pas si compétent que ça, en fait. Et une autre, vraiment une autre notion très importante dans cette définition-là du syndrome de l'imposteur, donc je rappelle, c'est un sentiment persistant, c'est la peur d'être démasqué, et troisièmement, c'est un rapport au succès qui est vraiment très biaisé, dans le sens où on ne s'attribue jamais la réussite. Mais tu sais, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'équipe, j'avais les conditions favorables. Là, on est dans le syndrome de l'imposteur. La différence qu'il y a peut-être avec un manque de confiance en soi, c'est peut-être des notions des fois qu'on n'arrive pas à dissocier, et j'aime à le rappeler, c'est que le manque de confiance en soi, c'est « je ne suis pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire ». Et donc, une personne qui a un manque de confiance en soi ne va jamais se lancer. En revanche, quand on a le syndrome de l'imposteur, bon, il se peut qu'on ait dit non plusieurs fois, etc. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Là, on est embarqué dans un projet, on est embarqué dans une situation où il faut qu'on y aille. On a réussi. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, mais on a réussi. Puis à la fin, on vient nous féliciter. Bravo, j'ai vraiment apprécié, ça m'a parlé, ça m'a touché. Ou alors, c'est excellent ce que tu proposes, etc., etc. Et puis là, on n'arrive pas à accueillir et à recevoir une forme de reconnaissance ou une forme de réussite rétributive, finalement, au travail qui a été fourni.
Ok. Wow. Donc ça, le fait de ne pas pouvoir recevoir la... Bah, en tout cas, ne pas pouvoir s'attribuer une part dans la réussite, ça va être un des indicateurs. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui, si on s'auto-analyse, on va se dire, c'est ça ou c'est pas ça pour moi?
Comment savoir que l'on a le syndrome? J'ai pas envie de dire souffrir non plus. Déjà que syndrome, ça fait très médical.
Quand même.
Très maladif. Ce n'est pas une maladie non plus psychologique. Là, c'est des comportements que l'on a adoptés. Puis encore, une fois, comme la personnalité, il y a de l'ordre de l'inné et puis de la qui exactement. Donc
tu vois, le mot est bien placé, putain. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, il fallait que je sorte un truc pour moi.
Exactement. Donc oui, c'est sûr que il va y avoir des comportements, on parle même de cycle en fait de comportement, syndrome de l'imposteur. Toujours la même façon de procéder lorsqu'il est dedans. Finalement, on lui propose un projet ou on lui impose un projet ou une action à faire. Il se dit « je suis pas capable, je ne peux pas, je suis pas assez, etc. » Mais bon, il va falloir que je le fasse. Et là, il y a deux choix. Et ils sont très paradoxaux, c'est ça qu'on dit ? Paradoxaux, les choix en tout cas qui se présentent aux personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est que soit tu vas choisir la procrastination, soit tu vas choisir la surpréparation.
Ah ouais,
je me reconnais là-dedans.
Dans lequel ?
Dans la surpréparation. Ah ouais, essayer de compenser le fait que je pense que je suis pas à la hauteur.
Ouais, pas à la hauteur, etc. Et c'est drôle.
Donc ça
parce
aussi
que...
c'est un autre symptôme.
Exactement.
Un des deux du moins.
Exactement.
C'est ça, la surpre...
ouais. Donc t'as la team un peu, justement de procrastiner jusqu'au dernier moment. De toute façon, ça va être un élément extérieur qui va faire que je vais réussir. Vu que je ne crois pas que je suis l'objet de la réussite ou que mon travail mérite des félicitations ou des bravos, donc je vais procrastiner. Et puis en fait, je vais attribuer ma réussite à quoi ? À la chance.
Oh, il y avait ou à mon travail.
Procrastiner, c'est à la chance. Donc il y a eu des circonstances favorables qui ont fait qu'on a réussi. Celui qui se surprépare va dire, c'est parce que j'ai mis beaucoup d'efforts que j'ai réussi.
Ouais.
En vrai, c'est pas moi. C'est parce que j'ai travaillé tellement fort. J'y suis arrivée. Donc là, il n'y a que des patterns comme ça qui se représentent jusqu'au prochain projet. Et puis, on retourne dans ces patterns-là et décide.
Et une fois, si on accepte un projet et qu'on a le syndrome de l'imposteur, on va ressembler à quoi, en fait, comme équipier pendant le... comme équipier, selon où on se place dans le projet, mais à quoi est-ce qu'on va ressembler, comment est-ce qu'on va avoir tendance à travailler en équipe?
C'est sûr qu'il y a les notions qui sont interreliées, donc le manque de confiance en soi, le manque d'affirmation de soi, le manque de valorisation. Donc après, ça va dépendre vraiment du type de personnalité. Je vais pas rentrer non plus que dans ça, les types de personnalité, mais personne n'est épargné, encore une fois, par le syndrome de l'imposteur. Il y en a qui ont peur d'être démasqués comme étant pas compétents, d'autres pas être à la hauteur, d'autres je vais pas être aimé, je vais pas avoir la reconnaissance peut-être qui va avec, parce que effort bénéfice, parfois il est trop lourd en fait. J'ai mis beaucoup d'efforts, les bénéfices sont peu sur la balance. Et là, on va tomber dans de l'épuisement aussi. Donc ça, c'est aussi je suis venue pour donner ce message-là aussi. Mais quel genre de coéquipier ? Forcément, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui. Peut-être justement avoir du mal à se valoriser, à prendre sa place, laisser beaucoup les autres peut-être prendre sa place ou prendre beaucoup de part dans le projet. Et puis toi, tu t'isoles et tu te surprépares et vraiment, c'est épuisant. C'est épuisant pour toi, mais c'est beaucoup de travail caché en plus. Je dois faire plus.
Mais moi, la question, c'est quand tu dis prendre part au succès, je sais pas, ça dépend de l'arrière-plan spirituel dont on vient. Mais tu sais, moi, dans l'église, quand je me suis convertie, c'était comme toujours rabaissé. C'est-à-dire que c'est Dieu, c'est pas moi. Donc, il y a une notion, surtout si on parle de ministère, ou la notion où c'est Dieu qui fait.
Ouais.
Tu vois, donc on peut tomber dans ce syndrome-là en disant, c'est pas moi, c'est juste Dieu, donc c'est tout. Et d'autres personnes, c'est l'inverse. C'est toutes eux. La gloire est à eux. Et c'est, je pense... trouver l'équilibre entre Dieu m'a utilisé comme un canal, mes dons, et il me donne le succès, mais ça lui vole pas le succès à lui. Je sais pas, c'est ça qui est un peu, parce que dans certains cercles chrétiens, c'est pas si facile prendre le crédit. Il y en a qui le prennent trop, mais il y en a qui le prennent pas assez, de dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais c'est de trouver cet équilibre que, c'est Dieu à travers moi. Et ça fait,
Mais tu sais, on veut servir Dieu avec honneur, donc on se prépare, ne serait-ce que dans la prière, ne serait-ce qu'à travailler peut-être aussi notre don. On prend des cours, on se forme, n'est-ce pas? Donc, tu sais, il y a toute cette part-là qui n'enlève pas que Dieu le fait à travers moi, mais en même temps, j'ai fait ma part aussi. Et ce qui est beau dans le fait de servir Dieu, c'est le servir avec lui. Donc, on est ensemble dans cet appel-là. Donc, il y a ce qui est de la part de Dieu qui m'a fait grâce. Je ne mérite rien. Il a mis ce don, ce talent en moi. Je ne mérite pas. Maintenant, C'est comme la parabole des talents. Hein. Qu'est-ce que je fais avec? Je l'enterre, je le travaille, je le fais fructifier. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Et donc là, effectivement, oui, il y a un équilibre encore une fois à tenir, hein, parce que ceux qui ne sont pas du tout dans le syndrome de l'imposteur vont avoir d'autres traits, d'autres comportements. Parce que là aussi, avec le syndrome de l'imposteur, comment on se reconnaît qu'on est dedans? C'est qu'on manque toutes les opportunités. On n'en saisit aucune.
Ouais.
Parce qu'on n'est pas capable. Est-ce que c'est vraiment ma place? Ah, est-ce que quelqu'un ne le ferait pas mieux que moi? Donc, moi, personnellement, je me suis rendu compte que, oh, Rachel, tu dis oui à beaucoup de choses, tu sais pas dire non. Mais finalement, en m'analysant, j'ai dit non à beaucoup de choses. Mm-hmm. Beaucoup de choses, pourquoi? Parce que j'avais peur. Mm-hmm. Parce que c'était ça qui m'animait, finalement. Non, Rachel, c'est pas là, il y a meilleur que toi, laisse la place, voilà, etc. Donc, il y a eu des histoires dans ma vie qui ont fait que, bah, j'ai plus eu le choix. Mais tu dis non à tout et tu rates toutes les opportunités. Et jusqu'à quand vas-tu rater l'opportunité, la porte que Dieu t'ouvre, l'appel que Dieu a mis sur ta vie, par cette peur en fait qui t'anime et qui te tient prisonnier? Aussi, le syndrome de l'imposteur, c'est une prison mentale, c'est une barrière psychologique. C'est toi qui t'auto-condamnes. C'est toi qui te dis que tu ne peux pas. C'est la seule personne qui te dit que tu ne peux pas, c'est toi-même. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc c'est très dur, c'est une réalité. Attention, quand je parle de prison psychologique, c'est vrai que peut-être l'image qui vous vient, c'est une prison sans barreaux en fait. T'es tout seul dans ta cellule, la porte est grande ouverte et tu restes enfermé.
Mais ça me fait bien penser. Juste une petite anecdote, Houdini. Je lisais là-dessus, et il y a un documentaire qui est passé à la télé. Je sais pas que je m'intéresse à Houdini, mais quand tu regardes Houdini, tu sais, c'est celui qui sortait, tu sais, les menottes ou les camisoles de force, et il était vraiment pris dans une. Lui, c'était sa gloire d'aller. Il l'emmenait dans les prisons, il fermait à clé la porte de la cellule, et puis lui, en quelques minutes, il sortait. Toi, il faisait son truc à chaque fois. Il y a une seule fois qu'il n'a pas été capable de sortir de cette cellule-là. Parce qu'il pensait, il a pris son truc, il a fait son truc, il pensait que c'était barré, fermé à clé comme d'habitude. Mais en fait, la porte, elle était pas barrée. Oh. Et c'est la seule fois qu'il a pas réussi à sortir de la cellule. Et je me disais, c'est tellement, et je l'appliquais dans ma vie à moi, comment des fois, je pense que la porte est fermée à clé, mais dans le fond, elle est ouverte, tu vois. Et lui, il a pas pu se libérer de cette cellule-là. Et c'est exactement, mais c'est dans notre esprit que c'est fermé. Parce qu'avec Dieu, la porte est ouverte, tu vois.
C'est une belle image.
C'est beau, hein.
J'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir le syndrome de l'imposteur, mais ne pas manquer de confiance en soi, avoir confiance en soi, en ce qu'on est capable de faire, ou peut-être en notre appel, ce genre de choses, mais quand même avoir le syndrome de l'imposteur, est-ce que ça peut quand même aussi être en opposé?
Tout à fait, parce que comme je disais, le manque de confiance en soi, ça peut être interrelié au syndrome de l'imposteur, mais c'est quand même deux notions complètement différentes. Le manque de confiance en soi, c'est je ne peux pas, je ne le fais pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est j'y vais, parce que j'ai pas le choix, puisque je me sens poussée, puis que quelque part j'ai cette intuition que oui, c'est mon appel, oui, il y a quelque chose à faire, bon, allez, je le fais. Mais tu ne t'attribues pas la réussite. C'est ça la différence. C'est le manque de confiance en soi n'y va pas. Le syndrome de l'imposteur y va, mais a beaucoup de mal avec la reconnaissance. Tu vois.
Okay. Est-ce que la reconnaissance ou la peur d'échouer?
Les deux.
Ouais. Parce que si j'échoue, en fait, je serais pas reconnue, tu vois. Tu vois, c'est la notion.
Ou si j'échoue, ça veut dire que j'étais réellement pas capable de le faire. Enfin, tu sais, ça va
en confirmation.
Une confirmation que t'étais pas.
Et si on revient peut-être à ton histoire.
À mon syndrome.
Je trouve sur la tasse à droite. Est-ce que toi, tu sais quand ça a commencé? C'est ça. Est-ce que tu sais, t'identifies un moment où tu te dis, j'ai l'impression que c'est là?
J'ai pas de souvenir pour me dire à partir de ce moment-là. Je me rappelle, aussi loin que je me rappelle avoir été sur une estrade, je me rappelle l'avoir vécu, ce syndrome de l'imposteur là. Je sais pas si c'est un lien avec le fait que je sois l'enfant du milieu, puis que par exemple quand mon frère et ma sœur et moi, on est dans la musique, fait qu'est-ce que j'avais cette peur là de peut-être essayer de faire des choses, puis d'avoir vécu de, je sais pas, je dis ça, mais j'ai comme eu l'impression que j'avais peur du regard de peut-être de ma famille, de mon frère et de ma sœur. Du coup, je me suis enfermée un peu là-dedans. Mais depuis toujours, même quand les premières fois que je faisais la louange, je me rappelle, j'étais tétanisée à en pleurer, même pas être capable d'ouvrir la bouche parce que je me sentais vraiment pas à ma place. Quand je chantais, j'étais pas capable de faire des solos parce que j'avais envie de partir toutes mes années de musique. Donc on dirait qu'il y a vraiment un lien avec ce Alors que dans la vie, je suis pas quelqu'un qui, c'est pour ça que je posais la question, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui manque de confiance, je suis même pas quelqu'un qui doute de ma capacité de chanter. Non, mais je veux dire, je chante depuis suffisamment longtemps pour savoir que je suis capable de chanter. Mais dès que je suis sur une, dès que c'est un rapport avec l'estrade, là, c'est tout de suite dans mes pensées, t'es pas capable, il y en a qui pourraient le faire qui sont meilleurs que toi. Pourquoi en fait? Et même le succès, par rapport au succès, c'est des fois, c'est, ben en fait, le succès, c'est pas, je le mérite pas ce succès-là, parce qu'en fait, ben il y avait juste personne qui m'a démasqué, que ou j'ai bien, tu sais, je me reconnais vraiment dans ça là, le fait, ben j'ai tellement travaillé, j'ai tellement de techniques vocales et j'ai tellement maintenant baigné dans l'église, dans la vie spirituelle et tout ça, que oui, je le comprends, mais ça aurait pu marcher si ça avait été quelqu'un d'autre, ouais. Tu vois. Fait que c'est plus comme ça que ça se manifeste. Mais il y a pas de moment où je peux te dire à partir de là, c'est là que ça a commencé.
Mais en fait, Sandra est la preuve que le syndrome de l'imposteur est pas basé sur les compétences.
Non.
Des fois, on a l'impression, on se sent pas compétent, mais en fait, la plupart des gens, tu me corriges-moi, qui ont ce syndrome-là, en plus, ils ont les compétences. Tu sais, Sandra, elle chante hyper. Donc, c'est pas une question de compétence. C'est pour ça que c'est une question de porte ouverte, de dire, j'accepte pas parce que je suis choisie de Dieu, je suis équipée, ou dans mon poste de manager, peu importe, tu sais. C'est pas une question de compétence quand on se discrédite comme ça.
Vraiment, vraiment. Puis, j'aime bien, il y a aussi une chercheuse, là, qui est très connue pour le syndrome de l'imposteur. Et là aussi, la slide va s'afficher pour vous. Elle a décelé 5 types d'imposteurs. Alors, peut-être. Pour pouvoir se reconnaître.
Ah, dis-moi, c'est intéressant.
C'est comme les petites
là-dedans. De... Ouais, hein, c'est ça. Donc, c'est Valérie Young, là, je donne la gloire à qui il faut donner. Là aussi, donc, on a, dans le type de syndrome d'imposteur, le premier qui est l'expert. Donc, lui, il va se dire, je ne suis pas légitime tant que je ne sais pas tout. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui doit l'entendre aujourd'hui. Ouais. Arrête d'aller chercher la formation de plus, le diplôme de plus, la reconnaissance académique de plus. Tu le sais, tu as été établi, tu as été choisi, tu as suffisamment de connaissances pour commencer quelque part. Peut-être que Dieu a mis en toi un rêve d'être conférencière dans ton domaine d'expertise, de prendre la parole ou même d'animer ton premier podcast, je n'en sais rien, mais tu te dis je suis pas capable, de quoi je vais parler? Tu as, je te le dis, incubé assez d'informations et de connaissances pour pouvoir commencer. Alors lance-toi. Ensuite, on a le deuxième type qui est le perfectionniste, qui va se dire, lui, si ce n'est pas parfait, c'est un échec. Ensuite, on a la version super-héros.
Ah, la super-héroïne. Avec la cape et les...
Ouais, tu vois. Donc, c'est je dois tout assumer seule pour exceller partout aussi. Donc, je suis seule et je dois exceller partout. Ok. Après, on a le quatrième type d'imposteur qui est le génie naturel. Si j'ai du mal, c'est que je ne suis pas à ma place. Si j'ai de la difficulté, si c'est pas facile pour moi, c'est que je suis pas à ma place. Puis le dernier, c'est le solitaire. Je dois réussir sans aide, sinon je suis un imposteur.
Ok. Bah là, la bonne nouvelle, bon, c'est que ça peut mettre des mots sur certains profils. La mauvaise nouvelle, c'est que ça couvre beaucoup de beaucoup de situations.
Dans le génie. C'est ce que je me disais aussi dans le génie.
Non, mais c'est que on voit que le syndrome de l'imposteur, ça peut toucher un petit peu tout type, comme tu l'as dit, hein, tout type de personnes. Mais dans le fait de tout savoir ou de tout faire ou de tout faire, c'est un peu quand t'es dans le service, t'es dans l'aide, donc tu te dis bon, moi ça me concerne pas l'imposteur. C'est pour les gens qui font des trucs compliqués, tu vois. Le génie, ça c'est vrai. Moi j'ai rencontré des gens qui sont extrêmement talentueux et dès qu'ils font face à une compétence qu'ils ne maîtrisent pas, mais qu'au final ils vont maîtriser finalement très vite, c'est fou en fait de voir leur raisonnement et que toi de l'extérieur tu vois ces gens, mais tu te dis mais t'as une capacité d'apprentissage qui est hors norme, et là parce que ça te prend même moins que
la moyenne,
là c'est toi qui te sens mal à ce moment-là. Comment ça se fait, je comprends pas ça, mais j'ai un problème. Non. Mais c'est ça, c'est que ça touche tous les profils, et du coup je me dis est-ce qu'on peut avoir le syndrome de l'imposteur mais plus ou moins, tu vois, dans le sens où quelquefois ça peut se manifester selon peut-être l'intensité d'une d'une situation, d'un défi, d'un projet, mais de pas l'avoir t'es à temps plein quoi.
Ouais, c'est juste quelque chose de temps en temps. Bah tu sais c'est comme l'inné l'acquis en fait finalement, ça va être un peu dans le même registre. S'il y en a qui ils l'ont depuis tout jeune, ils arriveraient pas à mettre un épisode en particulier pour dire quand est-ce que c'est arrivé dans leur vie, donc ils vont le traîner un petit peu tout au long de leur vie. Il y aura des solutions, n'est-ce pas?
Oui,
ils vont un petit peu le traîner et puis il y en a ils vont découvrir les HPI. Mm-hmm. Ont une tendance à tomber dans le syndrome de l'imposteur, justement les hauts potentiels, mm-hmm, même intellectuels, mm-hmm, aussi. Pourquoi? Parce que dans leur parcours académique, tout était facile. Et puis il arrive un moment où il faut qu'ils travaillent un petit peu, donc ils découvrent qu'ils font un petit peu d'effort. Et puis là, je suis pas capable, c'est pas possible. Ah ben non, mais ça marche pas. Mais en fait, et toute leur vie est remise en question, en cause à ce moment-là. Et là, c'est un vent de panique parce que eux ne le traînent pas depuis des années. Eux, c'est soudain, c'est brutal. Ils se prennent le mur en pleine face. Et donc là, c'est violent. C'est de toute façon le syndrome de l'imposteur peut venir avec avec d'autres choses comme des grosses crises d'angoisse, d'anxiété, de la dépression. Je disais tout à l'heure de l'épuisement qui mène aussi au burn-out. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui le traînent aussi sur le long terme, c'est je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler. Donc je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Si je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que je travaille plus que les autres. Donc en fait, j'ai même pas ma journée de 8 heures devant moi. Je vais faire des 10 heures, des 12 heures. Je vais travailler le soir tard. Je vais me lever tôt pour pouvoir être sur-préparée à mon livrable ou au jour où je dois faire ce que je dois faire. Donc, j'ai mis beaucoup d'efforts. Cette fois-ci, ça tombe bien. Tout le monde reconnaît que waouh, bravo, c'est génial, tant mieux. Donc, si tu veux, sur la balance effort, encore une fois, bénéfice, ça s'équilibre. Mais en fait, à la longue, on se rend pas compte, mais on creuse. Il y a plus d'efforts que de reconnaissance parce que, en fait, après, il peut y avoir même une dépendance à cette reconnaissance qui rétribue en fait encore une fois ton effort. Et en fait, quand il y a un déséquilibre comme ça qui se joue, que tu mets toute ton énergie dans la préparation, après juste un merci, waouh, bravo, c'était bien, ne suffit pas. Et tu tombes dans l'épuisement total, ton corps te lâche et tu remets toute ta vie en fait en question.
Puis d'avoir cette crainte d'être démasqué, tu vis comme quelqu'un qui est illégal en fait. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie parce que t'es tout le temps en train de te demander mais est-ce que je vais être mise à nu. Et du coup bah tu compenses avec beaucoup de travail, mais tu compenses aussi avec beaucoup de protection, de carapace au cas où, parce que si je suis démasquée, bah c'est la fin de ma carrière, c'est la fin de mon opportunité, c'est la fin de la relation, c'est la fin de... Donc tu vis en fait ton moteur de vie, c'est la peur. Et comme on le dit tout le temps, la peur est un très mauvais moteur qui va nous pousser à des excès, qui va nous pousser à des retranchements, à des attitudes qui vont avoir des préjudices. Et c'est sûr que à première vue, en fait, ça peut fonctionner. C'est ça qui est traître. C'est qu'à première vue, ça va fonctionner parce que je vais énormément travailler, je vais fournir beaucoup d'efforts, ça va fonctionner, on va me dire merci, je vais me sentir un petit peu mieux. Et mais c'est de regarder à long terme, en fait, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que j'aborde chaque nouvelle chose. Et puis ça fait que, bah, au final, on va devenir peut-être moins compétent et qu'on va perdre parce que c'est tellement demandant pour nous. Et c'est là où les gens vont dire ah mais finalement tu vas voir de la déception dans le regard de quelqu'un et tu souffres déjà du syndrome de l'imposteur, tu te dis aïe, ce jour est arrivé. Et quand ce jour est arrivé, qu'est-ce qui se passe?
Un concept très puissant, très fort, hein, c'est la prophétie autoréalisatrice là.
Je voulais laisser Rachel le dire.
Non mais tu sais, ça paraît comme un grand mot, mais c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que quand je suis en situation de stress, là, imaginez que je me laisse envahir par une peur de prendre la parole, par exemple. Puis là, ça commence à se voir. Je prends ma tâche, je suis comme ça. Même les émotions sont contagieuses. Je vous renvoie le malaise, la gênance qui est là. Puis finalement, les temps de silence vont me bloquer, vont me braquer. Je suis pas au meilleur de ma performance. Est-ce que ça remet en question mes compétences, toute la préparation que j'ai eue en amont? Non. Mais mon état de stress, lui, va me rendre et me faire perdre mes moyens. Puis finalement, je suis plus capable d'aligner mes mots. Puis finalement, je sais plus ce que je dois dire. Puis finalement, j'ai l'impression que je sais plus rien. Donc, et voilà.
Et tu pars en pleurant déjà. Je suis démasquée, exact.
Je suis démasquée. Ouais. Je suis tellement pas compétente. J'aurais jamais dû dire oui. Et voilà dans quoi je me suis mise. Et donc, cet état psychologique ne nous met pas dans des bonnes dispositions pour réussir. Et la prophétie autoréalisatrice, donc ce que je pense, de toute façon, je vais être démasquée à un moment donné. Eh bien voilà, je l'ai. réaliser moi-même. Mmh. J'ai mis toutes les conditions favorables pour m'amener à cette conséquence-là.
Okay. Mmh. Donc on se sabote soi-même.
On se sabote soi-même. Mmh. Syndrome de l'imposteur, c'est de l'auto-sabotage. C'est on s'enferme encore une fois tout seul. On se freine tout seul.
Et du coup, la bonne nouvelle, Rachel, pour s'en sortir,
ben, on a des exemples dans la Bible. Il y avait deux exemples sur lesquels on évident là, Gédéon. J'aime bien cette image qui est tout seul là dans sa taverne à battre du froment et puis Dieu lui dit allez, maintenant lève-toi, vaillant héros. Et comment il le sait que c'est un vaillant héros? Il a jamais mené un combat de sa vie à ce moment-là, que je sache. Il a pas fait ses preuves, mais Dieu voit en lui en fait l'appel et la mission qu'il y a. Tu veux dire de moi?
Non. Ah, okay. C'est mon texte préféré.
Ah oui?
Mais oui, parce que mon texte préféré. Non, qui a dit ça. Mais il y a la tsunamite. Non, mais dans un autre sens, elle, la tsunamite, c'est Sadoula. Mais lui, c'est qu'il part d'un ado. Il va devenir un grand chef.
En fait, tous les personnages de la Bible sont les préférés de Stéphanie.
Il y a rien, puis il va devenir un grand leader spirituel. Bon, excuse, j'arrête tout. J'aime trop la Bible.
Mais j'aime ça. Et puis, en fait, qui on est pour dire non? Non, merci, mais non, je veux pas y aller. Et en plus, à Dieu, on va lui dire non? Mais moi, je t'appelle, vaillant héros. Vas-y, lève-toi. Je t'ai établi. Vas-y, maintenant, prends ta place et fais ce que tu as à faire. Fais ce pourquoi je t'ai créé. Ok. On a, et là, mon deuxième exemple préféré, moi, c'est Moïse.
Moïse, je dirais, il négocie avec Dieu carrément.
Mais t'as vu comme il négocie, puis comme il se fait remballer.
Tu es en train de perdre patience avec lui, là.
J'aime trop, mais il faut remettre les choses dans son contexte. Moïse, c'est qui? Ah là là, il a quitté sa principauté, là, son rôle de...
Son royaume avec...
Son royaume. Il a l'habitude d'être entouré, d'être servi, d'être petits oignons, même, hein, c'est la prunelle des yeux, il est sauvé des eaux, c'est l'enfant, voilà, qu'on va chérir quand même. Puis là, son monde s'effondre, il découvre qu'il n'est pas du tout égyptien, qu'il fait partie du peuple hébreu, le peuple qui a été opprimé depuis toujours. Il a appris même à mépriser quelque part, à écraser. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, il quitte tout ça sur quand même quelque chose de grave, un meurtre. Donc, une culpabilité énorme à tout ça. Et puis 40 ans dans le désert, tu te retrouves tout seul à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as connu, berger. Donc tu es tout seul avec ton troupeau, ok.
Mais et à s'en vouloir d'avoir commis cette action.
Et la culpabilité énorme en plus. Donc qu'est-ce que tu choisis de nourrir dans ce désert-là pendant 40 ans? Donc à un moment donné, oui, il y a le buisson ardent, et ça prenait, je pense, un buisson ardent là dans sa vie. Et puis, alors qu'il est en pleine crise identitaire, je ne suis pas égyptien, je suis hébreu, je suis pas prince, je suis berger. C'est quoi ma vie? À quoi elle ressemble ma vie? Qu'est-ce que ça... Il y a pas d'après. Il y a pas d'après. Et ça prend un buisson ardent. Dieu qui se révèle pour la première fois, je suis celui qui est, il lui donne son nom. Donc voilà mon identité à moi et voici l'identité à laquelle je t'appelle, tu vas être le libérateur, tu vas libérer mon peuple. Puis là, une négociation. Non mais, je ne sais pas parler, puis qui je suis, puis... Et Dieu qui lui répond, mais qui a créé la bouche de l'homme? De qui a créé la bouche de l'homme quand même? Et donc si en ce moment quelqu'un nous écoute et doute de sa légitimité de dire, mais... Peut-être je suis encore un adolescent, une adolescente, une jeune fille, un jeune homme. Je n'ai pas fait mes preuves, je ne sais pas ce à quoi je suis appelée, je ne sais même pas quel genre d'études, je ne sais même pas quel est mon appel de vie. Et pourtant, tu le sens, tu le sais, Dieu t'a appelé à quelque chose. Réponds, me voici, je t'en supplie, réponds, me voici. Et puis comme Moïse, si tu as une excuse quelconque, attention, hein, Dieu va te dire, c'est moi qui mettrai les mots dans ta bouche. Tu n'as à craindre rien du tout. Et si Moïse... était resté ancré sur ses positions, à douter, à ne pas y aller, pas du tout. Il serait passé à côté de quoi? les 10 plaies, là, c'est quand même extraordinaire. Waouh, ah oui, tu es celui qui y est et tu m'accompagnes à travers ces 10 plaies. Je change l'eau en sang, voilà. Donc il y a plein de choses qui se font, la mer rouge, on sait, le libérateur, puis tout ce qui va être accompli à travers Moïse. Et en fait, c'est ça aussi que ça nous apprend sur le syndrome de l'imposteur. Quand tu dis oui à Dieu, que tu abandonnes ta peur et tu lui fais confiance, alors là, tu entres dans quelque chose de l'extraordinaire, qui sort vraiment de l'ordinaire, dans le sens où tu fais ton appel avec Dieu. Ce n'est plus sur toi que ça repose, sur ce que tu penses de toi, sur tes compétences, ce que tu as, ce que tu n'as pas d'ailleurs. Parce que parfois, Dieu appelle des gens qui, on dirait qu'ils n'ont pas de compétences extraordinaires, et pourtant, Dieu les équipe. Au moment où ils se mettent en marche, ils font ce pas de foi. On en a vu, hein, des gens autour de nous qui, oh, ben, ils sortent du lot, mais ils ont fait ce pas de foi et Dieu les a équipés. Dieu a béni justement cette confiance vraiment aveugle qu'ils sont en train de faire à travers ce ministère-là. Et donc, si tu ne dis pas oui, si tu n'abandonnes pas tes peurs, tu ne verras jamais ce que Dieu veut faire à travers toi, à travers ton appel, à travers ton ministère et à travers tout ce que tu as à accomplir ici-bas. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple aussi. Ouais.
Donc, pour vaincre ce syndrome-là, c'est bien sûr notre confiance en Dieu, mais est-ce que tu dirais aussi de... Tu parlais des tests de personnalité, je sais que c'est votre force, de connaître ses compétences. Est-ce que ça nous aide ou parce que ce qu'il faut, parce qu'on se dit que ça ne dépendait pas de nos compétences, mais si on connaît nos compétences, est-ce que ça nous aide à vaincre ce syndrome?
Oui, tout à fait. C'est ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs pistes en fait de solutions. Là, je donne la version, c'est la première qui pour moi...
C'est essentiel. Faire confiance à Dieu. C'est la première, c'est là que ça joue.
Dans le fait, dans la pratique, effectivement, il y a des petites choses à mettre en place et des petits exercices. Et évidemment, je trouve que les tests de personnalité sont vraiment un très bon point de départ, comme je le dis à chaque fois, pour se découvrir, connaître ses forces. En fait, ce qui est facile pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et donc là, tu peux comprendre que, ok, Dieu m'a créé avec ces forces-là et tu vas te rendre compte que finalement, l'appel qui est dans ta vie est parfaitement aligné avec ta personnalité et ce que Dieu a déjà placé en toi. Effectivement, tu vas découvrir tes points de vigilance. Ok, je vais plus avoir peur d'être démasqué sur quelque chose qui m'échappe. Maintenant, c'est nommé. Ok, c'est ça que je dois travailler. Donc, ok, maintenant on le sait, je vais développer des compétences. Personnalité, c'est des préférences comportementales, c'est pas une question de pas de capacité, pas de compétence. C'est pas parce que je suis introvertie que je serai jamais appelée à prendre la parole, et c'est pas parce que tu es extravertie qu'à un moment donné tu seras pas appelée à te poser, à écouter. Je caricature un petit peu. C'est une question de compétences. On va développer des compétences tout au long de notre vie et Dieu nous équipe. Et puis il y a d'excellentes formations. Ça, c'est peut-être le premier exercice. Le deuxième, c'est vraiment de faire une liste des actions que vous avez déjà menées tout au long de votre vie et de dire de quoi vous êtes le plus fier comme réalisation et pourquoi vous êtes fier d'avoir réalisé ça. Donc faire l'état de lieu de je suis dans ma vie, j'ai telle et telle réalisation dont je suis le plus fier. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ministériel, vraiment faire cet exercice là, cet effort là de réaliser pourquoi je suis fier. Et qu'est-ce qui m'a permis, quelle compétence m'a permis de réaliser en fait ses réalisations, d'accomplir ses réalisations. Donc ça, c'est déjà
est-ce que tu es en train de faire ta liste?
J'essaie de cibler.
Donc ça, et puis je dirais vraiment un troisième qui avait été nommé par Sandra dans une émission précédente, c'est de s'entourer. S'entourer de gens bienveillants. Après, je veux croire que nous avons tous un rôle à jouer, dans ce syndrome-là, auprès des personnes qui souffrent de ce syndrome aussi, de vraiment être celle qui encourage, qui est prompt à encourager, qui est prompt à bénir, qui est prompt à rappeler, j'aime ça de toi vraiment, parce que tu vois, quand tu l'as dit, quand tu l'as fait, ça a fait la différence, as-tu remarqué? Et de s'entourer de personnes qui n'ont pas de sentiment de menace vis-à-vis de toi, qui t'aiment profondément et qui vont bâtir un petit peu, justement, ce recul que tu n'arrives pas à t'attribuer. Ces résultats que tu n'arrives pas à te donner aussi. Donc ça va participer à tout ça.
Moi, ce qui m'a aidée dans le syndrome de l'imposteur, c'est la question, tu sais, le verset qui dit, à qui veux-tu plaire? Est-ce que tu veux plaire aux hommes ou tu veux plaire à Dieu? Donc quand tu arrivais pour faire quelque chose, je me disais, même si j'ai un échec ou même si je me sens pas la compétence, mais est-ce que ce que je fais s'appelait à Dieu? Parce que moi, j'ai lutté avec le regard de mon père. C'est nous, la performance, c'était tellement l'excellence. Donc, moi, dans mon syndrome, ça veut dire aussi à la fin, quand toute la personnalité, la peur, puis de dire à la fin, que j'ai réussi ou pas, j'ai pas réussi. Est-ce que Dieu a pris plaisir comme un bon papa? Si c'est oui, le succès, il t'appartient, Seigneur, parce que moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Donc, ça, à chaque fois que j'arrive, mettons, pour prendre la parole à la fin, tu sais, on a tout dépensé, puis je me dis, mais Seigneur, est-ce que toi, ça t'a plu? Moi, ça m'aide à prendre ma place.
Moi, c'est Moïse aussi, dans Exode 33, quand justement, il doit aller, puis que Dieu lui dit, je vais t'envoyer un ange, et que Moïse lui dit, mais moi, j'irai pas si c'est pas toi-même qui viens avec moi. Ça, c'est aussi ça qui m'aide dans mon syndrome de l'imposteur. C'est Moïse, il devait y aller, il y avait quand même un ange et tout ça, mais c'est Seigneur, en fait, je suis capable de le faire, je peux amener, mais Seigneur, je veux pas le faire sans toi. Et c'est, j'ai mes compétences, je me suis préparée, j'ai fait ce que je pouvais, mais en fait, mon Dieu, si t'es pas avec moi, que tu marches pas avec moi, en fait, je sais que j'y arriverai pas parce que ce qui vient compléter mon imperfection, finalement, en fait, c'est toi et c'est ta puissance en moi.
Et même dans les plus grandes imperfections, quand Dieu est avec nous, ça a plus de grands fruits que quand on était au contrôle de tout.
Exactement.
Vraiment.
Ce syndrome, il porte quand même bien son nom, syndrome de l'imposteur, parce que ça nous rappelle qui est le père du mensonge. Ouais. Et le père du mensonge, c'est le diable, en fait. Et il veut venir, comment il peut nous attaquer, ça va être à travers de ces bombardements de mensonges, et qui, à un moment donné, ça devient une vérité. Et c'est là où on peut basculer, et c'est là où on a du mal à se dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, peut-être que c'est la vérité, en fait, peut-être que je suis pas compétente, peut-être que je suis pas appelée, mais se rappeler aussi, de qui est Dieu, comment Dieu me parle, est-ce que vraiment Dieu va me parler, si j'ai quelque chose à changer, s'il y a quelque chose dans lequel j'ai besoin de grandir, est-ce que Dieu va me parler en me pointant du doigt, espèce de grosse nulle, tu vas jamais réussir, t'es pourrie, les autres sont meilleurs que toi, mais en fait, c'est pas le langage de Dieu, et c'est pas son cœur non plus envers moi, et du coup de se dire à ce moment-là, déjà c'est pas Dieu qui est en train de me parler, parce que je pense que des fois on tombe aussi dans le syndrome de l'imposteur, parce que on c'est un mélange, en fait, et puis plus on l'écoute et plus ça devient extrêmement confus entre ce qui est vrai, et puis tu sais, ça vient avec des mensonges mais avec des faits. Regarde, t'es nul, regarde, là, t'as échoué. C'est vrai, j'ai échoué. Seigneur, tu veux me parler? Non, on arrive à comprendre, non, c'est pas la voix du bon berger. Là, je suis en train de me faire attaquer, je suis en train de me faire intimider. Et Seigneur, si toi, tu veux me parler, tu vas me parler différemment. Et tu vas me parler avec amour. Et quand tu vas me parler, même si j'ai besoin de corriger quelque chose, ça reste édifiant à chaque fois que Dieu nous parle. Et ça reste dans l'amour. Donc, c'est d'identifier qui nous parle, déjà, et de se dire aussi, c'est pas une finalité de vivre de cette façon-là, et de pouvoir juste gérer le syndrome de l'imposteur, se dire je vais gérer, je peux faire mieux comme Gédéon et comme Moïse, et comme la Bible nous dit, c'est de surmonter le mal par le bien, et c'est de dire ok, je suis attaquée, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de céder à ces mensonges, de céder à cette pression, et de dire non, je vais dire oui, et c'est comme ça aussi que je vais vaincre, et il y a des gens à côté de nous qui vont réussir facilement, dans le sens où c'est rapide pour eux, c'est des HPI de tout. Et puis il y a des gens un peu plus peut-être que pour nous ce sera plus difficile d'aller vers des grands oui, de destiner vers des pas de foi, mais peu importe, en fait le principal c'est de réussir à dire oui. Et Rachel, tu nous l'as dit, par pitié, mais dites oui. Oui, j'y vais, oui, envoie-moi, oui, c'est moi le ce vaillant héros, cette vaillante héroïne dont tu parles, tu ne t'es pas trompée. Oui, tu me parlais à moi. Et de faire plus confiance à ce que Dieu va nous dire, à ce que nous, on va dire de nous, à ce que le diable va dire de nous, à ce que des gens malveillants peuvent dire de nous. Et c'est de mettre notre foi dans la parole, dans la vérité de Dieu. Et c'est ça qui va aussi amener la vie dans votre cœur. Alors résistez, résistez. Nous résistons ensemble à son syndrome de l'imposteur. Et je crois que de vaillantes héroïnes sont appelées à se lever et à ne plus céder à ces mensonges. Alors lève-toi, vaillante héroïne. Et nous, on va se retrouver mercredi. Rachel sera encore là.
C'est trop chouette, Rachel. C'est trop intéressant.
Donc, à mercredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.